des questions, des commentaires?
Merci. Je suis Chantal Blavier, je finis donc une formation de conseillère conjugale et je fais un travail sur l'entretien privilégié en orthogynie. Ma question est que, en ce qui concerne les adolescentes et toutes les jeunes femmes qui ne peuvent pas avoir accès à l'idée de la maternité ou de la maternologie, comme on dit, je vous entends pas ?
On entend très mal.
Oui, chez toutes ces jeunes femmes, en fait, il est impossible d'arriver lors d'un entretien de les faire mûrir, parce que vous dites très bien qu'il y a il faut de l'espace et du temps, donc on ne peut pas faire mûrir les gens trop vite, mais il est vrai qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour les aider. Est-ce que le fait de leur dire plus tard, il se peut que cette IVG refasse surface à travers d'autres événements de la vie, est-ce que c'est possible à dire ou est-ce que c'est plutôt dangereux ?
Si j'ai bien compris, c'est en fait savoir si leur faire prendre conscience que cet acte puisse avoir des conséquences plus tard, si...
Est-ce que ce sont des choses qu'on peut être amené à évoquer ou est-ce qu'il vaut mieux les taire ? C'est-à-dire que de toute façon, on est dans une situation où on ne peut faire que de, comment dire, que de la contenance et que accepter les gens comme ils sont et être là à côté d'eux hein, pour les soutenir. Mais comme on sait que de toute façon, l'IVG plus tard va réapparaître lors d'un autre événement, un deuil, au moment de la crise du milieu de vie ou d'un autre moment, est-ce que dans un entretien, on peut se permettre d'évoquer que ça aura une influence dans la vie plus tard ou pas ? C'est ça la question que je voudrais poser.
C'est vrai que toujours de pouvoir parler, c'est une question de moment, de savoir où la personne en est. Mais je crois qu'en fait, bon, face à cette adolescente, comme j'ai pu l'évoquer, qui d'autre part, il y a d'autres choses qui se jouent à travers cette grossesse, voulue ou non voulue, bien sûr. Elle est sous l'emprise bien souvent donc, des parents qui prennent bien souvent la décision pour elle aussi. Donc, à mon avis, c'est possible d'envisager avec elle la possibilité qu'elle fasse un travail, puisqu'en fait, cet acte ne sera pas anodin dans sa vie, mais sans chercher à la culpabiliser, en fait. Je crois que c'est ça qui reste important, voilà. Mais qu'elle puisse évoquer le fait que d'en reparler, quand elle en éprouvera le besoin, justement en sous-entendant que ça peut avoir des conséquences plus tard.
Est-ce que vous pouvez dire plus clairement quel type de conséquences cela peut avoir ?
Ben personnellement, là, j'étais en train de penser donc essentiellement, ne serait-ce qu'à la culpabilité provoqué une grossesse. Parce que c'est vrai qu'en fait, ce qui est interpellant, c'est à l'heure actuelle, où quand même il y a beaucoup de campagnes sur de l'information par rapport aux préservatifs, par rapport aux contraceptions, et de voir comme ces adolescentes s'exposent au cours d'actes. Et c'est vrai qu'en fait, par rapport aux conséquences qu'ils peuvent avoir dans sa vie de femme adulte, quand elle redésira d'avoir un enfant, il pourra ressurgir en fait cette grossesse, ce rendez-vous manqué en fait. Et c'est vrai qu'en même temps, quand je vous dis ça, moi je me rappelle d'une de mes patientes qui a eu une grossesse très jeune, à 15 ans. Donc en fait, je lui ai demandé comment elle l'avait vécu et elle me disait, mais non, très bien, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, ma mère m'a accompagnée, elle était tout le temps avec moi, etc. Et c'est vrai, au fur et à mesure que je parlais avec elle, je me rendais compte comme elle ne l'avait pas vécu dans son corps. C'est comme si ce n'était pas elle qui avait fait l'IVG. Elle n'était pas concernée. Ce n'était pas son histoire.
Je vous trouve très, très optimiste en disant que la société actuelle informe les jeunes et qu'il y a beaucoup d'informations. Je ne suis pas tellement convaincue que ça passe aussi bien que ça. Est-ce que
je pense que l'information passe mal parce qu'en fait, c'est vrai qu'on en parle. Bon, c'est quand même évoqué dans les écoles, aussi bien dans les nouveaux cours qui ont été mis en place, mais ça passe très mal parce que c'est vrai que c'est incroyable de voir comme la contraception est pas utilisée en fait, ou alors très vite abandonnée. Quand je regardais les statistiques pour savoir un petit peu comment se fait-il qu'il y ait autant d'adolescentes qui se retrouvent enceintes, alors c'est vrai qu'elles avaient utilisé la pilule, mais bien souvent elles l'avaient arrêtée, et quand elles ont eu un nouveau petit copain, ben elles n'ont pas pensé à la reprendre en fait.
Ça explique bien, hein. Je veux dire, c'est quelque chose... une gamine de 15 ans, elle ne va pas prévoir, la plupart, je pense, de vos enfants de 15 ans ont du mal à imaginer qu'ils vont avoir des rapports sexuels. Ça arrive un petit peu comme ça. Est-ce qu'une gamine à partir de 15 ans, on lui propose systématiquement la pilule ? C'est quand même quelque chose qui est difficile, non ? pour un éventuel rapport sexuel. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est quand même très compliqué et qu'il y a un gros travail d'information qui n'est pas suffisamment fait parce que. Enfin, je sais pas.
Bon, c'est vrai que je vois lors de mes consultations, enfin, je vais aborder disons que la pilule, que si elle me le demande, que si j'ai une demande ou j'ai un espace pour pouvoir parler de la contraception. Mais si elle me le demande pas, c'est vrai que je vais pas, parce qu'elle a 15 ans, lui en parler.
Oui, moi je suis Lila Francos, conseillère conjugale et familiale en Ariège. Et donc je voulais faire part justement de cette, par rapport à cette, ce questionnement, que l'information, il n'y a pas bien sûr que l'information, hein, que l'information elle est vraiment, c'est pas le point essentiel. Il y a bien d'autres choses qui se jouent à travers les oublis de pilules.
Bien sûr.
Bien sûr.
Bien sûr, c'est pour ça que je parle d'actes manqués.
Oui, bien sûr, il y a bien d'autres choses. Et justement, il peut se poser la question, par exemple, lorsqu'on fait des informations dans les structures scolaires, de quelle façon les fait-on aussi ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va amener comme ça de la pure information ? Ou alors, moi, je pense que c'est plutôt intéressant d'être sur des groupes de parole, sur de l'échange, et puis après, l'information viendra après, mais commencer par là.
Oui, je suis tout à fait d'accord, oui.
Bonjour, je suis Claire Baudin, infirmière. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez de la dernière loi sur l'IVG avec l'allongement du délai par rapport au temps.
Disons que je laisserai ma parole à mon confrère parce qu'elle va le développer dans son intervention. Donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit elle qui le développe.
Moi, je voudrais demander aux personnes qui s'occupent des entretiens pré-IVG si... Enfin, je ne sais pas si elles ont le droit de faire tout ce qu'elles veulent dans ces entretiens. Moi, je ne sais pas. Mais parce que je suis psychologue installée en cabinet et j'ai chez moi des gens qui viennent. Mais j'ai eu un monsieur qui regrettait amèrement d'avoir fait faire un avortement parce qu'il avait un enfant normal et un enfant handicapé. Et alors, il s'est rendu compte après coup que cet enfant handicapé allait peser de tout son poids sur un seul autre enfant. Alors il me disait, si on avait eu un autre, il y avait eu deux enfants normaux, ça aurait été quand même mieux. Et puis on pouvait bien, après tout, avoir un troisième enfant. Alors je trouve que c'est vraiment grave qu'ils n'aient pas mesuré ça avant l'avortement. Bon, ça c'est une chose. Un autre cas, eh bien une fille, bon, qui maghrébine, dont le père a tué la mère et s'est suicidé ensuite devant les enfants, bon. Donc un truc très grave, elle a été suivie en psychothérapie tout le long de son enfance jusqu'à l'âge adulte, mais elle a fait un avortement, et alors finalement elle se retrouve vers 28 ans, donc sans mari, au fond ne désirant pas se marier, au fond vu ce qu'elle avait vu vivre par ses parents. Bon. Alors, au fond, pourquoi est-ce que la psychologue qu'elle a vue, très rapidement, aussitôt, juste avant le rendez-vous de la psychologue, bon, elle n'a même pas pu réfléchir après, et pourquoi la psychologue ne lui a pas fait mesurer qu'allait-elle se marier ? Alors oui, parce qu'elle regrette maintenant d'être seule. Elle est seule. Ah, si j'avais cet enfant. Voilà. Alors, je trouve que c'est lamentable qu'elle n'ait pas été amenée à plus de réflexion avant de faire l'IVG, ces deux femmes-là. Voilà.
Oui. Ok. Quelle est la question ?
La question, c'est que je demande aux personnes qui s'occupent ici de faire des entretiens IVG, est-ce qu'elles ont toute l'attitude pour faire vraiment réfléchir la future opérée ? Est-ce que simplement elles écoutent et doivent l'aider, l'accompagner, ou est-ce qu'elles la font réfléchir ? Est-ce qu'elles ont le droit de la faire réfléchir sur ce que sera leur plus tard ? Deux femmes qui regrettent là amèrement d'avoir pas gardé l'enfant. Alors je trouve ça lamentable. Et puis alors la première qui est mariée donc et a deux enfants dont un handicapé. Alors elle veut plus. Ah oui, elle veut plus maintenant entendre parler d'enfant parce que alors encore avec cette IVG qu'elle a dû faire, elle peut plus assumer maintenant. Bon. Donc. Et puis la deuxième, la jeune fille maghrébine, eh bien, elle est seule maintenant. Voilà. Alors, bon, je trouve que c'est lamentable, ces IVG-là.
Oui, alors, le docteur Sermier me demandait si je voulais répondre. Une rencontre comme aujourd'hui, en fait, répond à votre inquiétude et à votre questionnement, dans la mesure où, en ce qui me concerne, je me bats j'ai envie de dire malheureusement contre cela, parce qu'il y a des choses qui sont lamentables. On n'est pas beaucoup aidé par les médecins, nous en tant que psychanalystes, certainement pas par les structures hospitalières. Et c'est vrai qu'il y a un vide. Il faut savoir aussi que, à notre sens, en tant qu'analyste, un psychologue n'a pas fatalement non plus la compétence pour bilanter des jeunes femmes qui demandent une IVG de façon très névrotique. Et c'est pour ça aussi qu'on est réunis aujourd'hui et tout au long de l'année 2002 quant à des sujets extrêmement sensibles. Je trouve que votre révolte est intéressante et en ce qui me concerne, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle avalise encore une fois mon combat, mais je crois que c'est surtout aux chefs de service donc des hôpitaux, je crois que c'est au directeur de ce type d'établissement à qui il faudrait poser la question. Malheureusement, en ce qui me concerne, chaque fois que j'ai essayé de poser des pierres, je n'ai pas véritablement été entendue. Les réponses ne sont jamais celles que l'on pourrait en attendre. Et c'est vrai qu'il y a de fait une banalisation de cet entretien. Ça sera peut-être évoqué là, cet après-midi, je ne sais pas. Mais il faut savoir qu'une IVG ne laisse jamais, bon, bien sûr, une jeune femme indemne, c'est une évidence. Et qu'il y a aussi des dépressions très graves qui interviennent quelque temps après l'acte, et ça, personne n'en parle non plus, et des dépressions donc qui peuvent entraîner bien sûr des suicides, etc. Et là aussi, il y a un silence total, c'est un sujet qui est tabou, mais effectivement, je crois que c'est vraiment au chef d'établissement qu'il faut poser la question. Moi, j'aimerais bien que le docteur Cheras réponde. On n'est jamais d'accord sur ce sujet-là, tous les deux, mais je suis très très heureuse de cette question.
Oui, donc je crois qu'il ne faut pas trop demander aux médecins. Dans le cadre des entretiens pré-IVG, il faut bien comprendre d'abord qu'ils ont été supprimés par la nouvelle loi, sauf en ce qui concerne les mineurs. C'est-à-dire que cet entretien, qui était une obligation prévue par la législation jusqu'à présent, n'est plus depuis la loi de juillet. Donc c'est un premier point, sauf pour les mineurs. La deuxième chose, on ne peut pas demander à des conseillères conjugales, qui souvent sont chargées de faire les entretiens, qui ont une formation dans la mesure de ce qu'elles peuvent avoir comme formation, de même certains psychologues rattachés aux établissements, et ce n'est pas toujours facile d'avoir dans les services hospitaliers des psychologues rattachés aux établissements, même au centre de planification, ne serait-ce que sur un plan financier, statutaire, etc. Donc dans ces différents cas, on a des personnes qui n'ont ni le temps, ni parfois une formation suffisante pour prendre en charge des choses qui sont très lourdes. Et ce n'est pas en un entretien, malheureusement, d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, même parfois un petit peu plus, où l'on peut toujours avoir le temps de tout saisir. Le fait que la loi ait été rallongée dans sa durée pourra permettre peut-être, dans certains cas, ce sera peut-être un effet bénéfique par rapport à d'autres qui sont pervers, mais en tout cas, aura peut-être la possibilité de donner justement un temps plus long pour une réflexion, pour un autre entretien, pour une prise en charge peut-être par une personne plus compétente que celle qui est en première ligne parfois au niveau du centre de planification quand il reçoit la demande. Mais je crois que ce n'est pas au niveau des chefs d'établissement, malheureusement, que les choses peuvent uniquement se régler. C'est un problème plus politique, financier, de moyens en personnel et en formation qu'on n'a pas toujours.
Oui, moi je voudrais intervenir parce qu'en vous entendant, je suis un peu révoltée. Je me dis que je suis future conseillère, je n'admets pas ce que vous projetez sur nous. C'est-à-dire qu'au moment où on est en train de discuter le statut des conseillères, où il est question que la formation passe de 400 heures à 600 heures, c'est l'occasion rêvée pour changer la formation et faire en sorte qu'on fasse des gens compétents, capables d'accompagner les femmes à prendre des décisions et que ça ait du sens. Moi, si vous voulez, je travaille là-dessus, je fais un travail là-dessus, mais je suis absolument révoltée de voir que finalement, bah, c'est comme ça, tant pis, ça va disparaître. Non, il y a trop de conséquences sur les femmes, et vous avez parlé de la TS, et ce qui a été mon point de départ de ma réflexion, je ne supporte pas ça. Donc,
si vous me permettez, on s'est mal compris. Parce que c'était au contraire pour défendre les conseillères et ne pas leur mettre justement sur le dos les problèmes qu'elles ont actuellement. Ce que vous dites, par contre, est très vrai. Quand je vous dis que c'est des problèmes plutôt, non pas de chef d'établissement ou de directeur de centre de planification, mais que c'est au niveau d'une prise en charge plus ministérielle ou autre, pour donner justement des possibilités de formation, c'est pour vous que je dis ça.
Merci.
C'est dans le même sens que vous venez de dire. Ce que je disais, au contraire, c'était pour dire qu'il ne faut pas mettre sur le dos de gens qui n'ont pas pu avoir une formation toujours correcte parce que les moyens n'ont pas été donnés et tout, que justement, on est dans cette situation. Et que c'est justement, mais au niveau du ministère de la Santé, du ministère des Droits de la Femme, etc., de débloquer des formations, de faire en sorte que les gens soient compétents. On est tout à fait dans la même direction.
D'accord,
alors, on ne s'était pas compris dans ce sens-là. Non, non, au contraire.
D'autres d'autres interventions? Oui.
Non, à ce propos, j'ai une petite réflexion. Je crois que les femmes auront moins de problèmes de conscience après une IVG si justement la société évolue vers le sens d'une plus grande... comment dire, un plus grand respect de la femme, quoi, quelque chose de qui va dans le sens du féminisme et de la meilleure intégration de la femme dans la société en général. Enfin, cette idée est très bien développée dans un livre que je viens de lire, que je vous conseille à tous. C'est le livre de Xavier Gauthier, IVG contraception, le combat des femmes du XXe siècle. Voilà.
Oui, alors. Je sais pas, il marche là. Moi, je suis psychologue et psychanalyste et je fais des entretiens pré-IVG dans un planning familial. Et bon, je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit parce que on met quand même tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces entretiens aient lieu, pour qu'ils puissent être multiples avant l'intervention. Vous m'entendez là?
Oui. Très bien.
D'accord. Pour avoir une écoute très attentive. Donc, bon, il faut quand même voir une chose, c'est qu'ils ne sont plus obligatoires, quand même. Et que ça, ça a changé la qualité des entretiens, d'une certaine façon. Et pourquoi ne sont-ils plus obligatoires? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Et d'autre part, moi, je suis frappée par le nombre de jeunes filles, pas mineures, hein, mais de jeunes filles de 18-19 ans, qui viennent demander une IVG et qui se trouvent être des personnes à la personnalité extrêmement fragile, qui n'ont pas osé ni demander à leurs compagnons de mettre un préservatif, ni qui ne prennent pas de contraception, mais qui, le moment venu, ne savent pas demander, ne savent pas dire non, et qui se placent toujours dans le désir de l'autre. Et elles n'ont aucun repère personnel pour dire non et pour imposer, d'une certaine façon, le respect d'elles-mêmes. Et c'est très difficile de travailler avec ce genre de personnes. Donc, bon, c'est un témoignage qui... Bon, je ne prétends pas être... plus compétente ou moins compétente que d'autres. Je crois qu'on fait, enfin, quand on est amené à faire ce travail-là, on essaie de le faire bien et que, bon, on ne peut pas non plus, enfin, on n'est pas magicien d'une certaine façon. Donc, pour répondre à madame qui semblait scandalisée à propos des IVG qui avaient eu lieu, alors que, bon, et il faut voir qu'en face de nous, on n'a pas toujours de réelles demandes non plus, hein. Moi, je sais que je propose toujours plusieurs entretiens si c'est possible, avant l'intervention. Et je propose toujours des entretiens après. Et les jeunes femmes, ou les femmes, reviennent rarement. Hein. Elles reviennent rarement après pour